Bonjour et merci d'être aussi nombreux au rendez-vous du Grand Face-à-Face tous les samedis. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis dans l'actualité cette semaine, vous le savez, Emmanuel Macron qui lançait le grand débat national qui doit durer ce débat jusqu'à la mi-mars. Expérience inédite sous cette forme. Le Premier ministre demandait solennellement aux partis politiques d'y participer. Alors qu'attendre de ce grand débat? Et la réconciliation du pays avec lui-même peut-elle passé par là. Le désaccord, la controverse, la polémique sont le carburant de la démocratie. C'est ce que déclarait récemment notre invité. Il est historien, spécialiste de l'histoire du socialisme et de la France contemporaine, président de l'école des hautes études en sciences sociales. Christophe Prochasson viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous avez tous les deux réagi cette semaine à la lettre d'Emmanuel Macron. Gilles dans le journal Le Monde, Natacha dans Marianne évidemment. Et je vous ai rarement vu aussi en colère, Natacha.
Ça peut arriver dans le sens
mais vraiment,
où mais nous aurons
l'occasion. Ça fait maintenant quelques années que nous travaillons ensemble.
Oui.
Et je vous ai rarement senti autant en colère.
Alors, j'étais en colère, non pas tant sur cette lettre, dont on peut en effet critiquer point par point, les prises de position, etc., que sur la façon dont tout cela s'est accompagné. Notamment, on en a parlé la semaine dernière, d'un discours sur le sens de l'effort, d'une façon
la
de cibler certains Français, qui me semble particulièrement malvenu dans l'état de tension que vit le pays.
Et on va en parler, évidemment. Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, avant la colère, le rire, c'est mis en onde par François Audouin. Et cette semaine, l'actualité était évidemment dominée par le grand débat national et la lettre du président de la République aux Français. Guillaume Meurice est allé vérifier si les Français l'avaient justement bien reçu.
Bah voilà, je suis allé dans la rue, je suis même allé à Montparnasse ce matin, très beau quartier, où il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, je vous rappelle. Alors, monsieur a-t-il bien reçu la lettre?
Oh, il peut, franchement, il peut s'essuyer le cul avec. Hein.
Ah, voilà, s'essuyer le cul avec, vraiment.
Oui, bien entendu. J'espère qu'il a écrit ça sur un papier pas trop rêche, quand même.
Voilà, a priori, c'est bon. La lettre a été bien reçue, là, Manu. Tu nous entends? Bon, alors, c'est des doléances, hein. Il demandait des doléances. Ben voilà, un papier moins rêche. Hein, c'est vrai que les Français ont un peu mal au cul ces derniers temps. Donc, on garde ça, monsieur, bien joué. Alors, à Montparnasse, il y a des gens qui bossent. Hein. Il y a, par exemple, le kiosquier.
Moi, je commence 6 heures de matin, 6 heures de soir, 70 heures par semaine. Je gagne même pas SMIC.
Ouais, mais vous travaillez pas assez, j'ai l'impression.
70 heures par semaine, c'est pas...
Vous pourriez faire plus.
Ouais, si ça m'en ramène plus, comme il disait l'autre.
Ah, Sarko, ah ouais, oh, putain, il nous manque. Hein. Franchement, il nous manque, on est arrivé à ce point-là où Sarkozy nous manque. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y aura des beaux débats de prévus, ça c'est chouette, notamment un beau débat sur l'immigration. Et ça, je vais vous dire, ça fait quand même toujours plaisir.
C'est un thème que les gens souhaitent discuter.
Vous souhaiteriez parler d'immigration, par exemple?
Oui, il y a trop d'assistanat pour eux. Parce qu'ils sont pris en charge tout de suite, surtout s'ils ont deux enfants et tout ça. Ce discours qui fait que quand on en parle, on est Front National, c'est ridicule.
Ben, c'est ridicule. Bon, là, c'était quand même vachement bien limité, mais c'est ridicule.
Une lettre présidentielle et 34 questions. Pablo Mira a joué le jeu et il a essayé d'y répondre.
Par exemple, voilà, je remplis le questionnaire en même temps que vous. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Réponse, oui. L'école, les gilets jaunes, Éric Drouet et Fly Rider, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Oui. Est-ce que ça a marché?
Non.
Voilà. Pour conclure, avec ce grand débat national, les Français ont donc 60 jours pour trouver les solutions que les politiques n'ont pas trouvées en 60 ans. Et au pire, hein, si tout cela ne mène nulle part, pendant que les gens se battent en mairie, hein, on rajoute de la boue, trois tigres et puis Olivier Mine en train de pousser de la fonte et ça fera une super épreuve pour Fort Boyard.
Et puis Emmanuel Macron n'a pas pu s'en empêcher. Une nouvelle phrase et une nouvelle polémique. Explication de texte de Daniel Morin.
Vous l'avez encore entendu hier, il parle n'importe comment. Il a balancé que certaines personnes en difficulté déconnent. Il dit aussi, il ne faut pas raconter des cracks, comprenez des bêtises. Il rajoute, c'est pas le retour de l'ESF qui va améliorer la situation des gilets jaunes. Ça, c'est de la pipe. Comprenez, un mensonge. Mais c'est pas du tout présidentiel comme discours, tout ça. On dirait des dialogues empruntés à des vieux films de gangsters avec Gabin ou Ventura. J'ai très très peur de son prochain discours face aux Français, à celui-là.
En direct de l'Élysée, monsieur le président de la République française. Salut les gonzes, salut les gisquettes. Bon bah ça y est, un grand débat est lancé. Et je vous garantis, c'est pas de la tarte, je suis crevé. J'ai les rouleaux dans le rouge. Pour les impôts, j'espère que ça vous botte ma réforme. Hein. Prélèvement à la source, tranquillité, plus de bifton à donner tous les 4 mois. L'artiche est gardée par le taulier. Chaque mois tu reçois ton oseille et tu le gardes.
Autre chose, la limitation de vitesse à 80. Bah, il y a des chances que j'assouplisse, voire que je ventile le texte. Vous voulez conduire comme des cons? Après tout, ça vous regarde. Attention, les amis, tout de même. Faudrait pas non plus me prendre pour un cave, hein. Premier qui fait le mariole en étouffant le champignon de sa caisse, c'est les condés au cul, les bracelets au poignet, le panier à salade, et hop, au violon du con. Salut les trous du cul, coucou les gardes à vue. Salut les tocards, et vive la France.
Et dans l'actualité aussi, cette semaine, évidemment, l'affaire Benalla, de nouveaux éléments, Daniel Morin nous met au parfum.
Selon le cadavre enchaîné, l'ancien chauffeur, garde du corps, diplomate, bagagiste de l'Élysée aurait toujours en sa possession un téléphone crypté, téléphone qu'on donne d'habitude au personnel des services secrets, ça plus un quatrième passeport. Et oui les amis, on n'est jamais au bout de ces surprises avec Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, c'est le monsieur plus de la République. Alexandre a toujours sur lui ce que vous cherchez et même ce que vous ne cherchez pas. Tu veux un peu d'argent? Demande-lui, il en a. Tu veux des armes? Demande-lui, il en a. Tu veux un brassard de police? Demande-lui, il en a. Tu veux une matraque? Demande-lui, il en a. Tu veux un préservatif Tainagi? Demande-lui, il en a. Tu veux un sandwich mixte, jambon, fromage, supplément, cornichon, le tout dans du pain de mie garanti sans croûte et sans gluten? Demande-lui, il en a. Tu veux un livre sur l'honnêteté, la transparence et la noyauté? Non, demande pas ça, il en a pas. Faut pas déconner non plus. Mais à part ça, il a tout, Alexandre. À se demander combien il a de poches, le bougre. En tout cas, si tu as besoin d'un nouvel ami, le meilleur choix, c'est Benalla.
Et avec autant de rebondissements, Charline Vanhoenacker a eu l'idée de faire de cette affaire un biopic au cinéma. Et voici ce qu'elle a écrit au CNC.
Macron et Benalla, ils ont ce petit truc des grands duos du cinéma. C'est Gérard Depardieu et Pierre Richard dans La Chèvre, c'est Lanvin Poulvord dans Le Boulet. C'est une mécanique de grand classique populaire. Benalla sur grand écran. Vous me direz, mais alors pourquoi pas un biopic sur Macron? Ben non, aucun intérêt. Le mec qui rôde son stand-up en province entouré d'un public de vieux? Aucun producteur n'en voudra. Tandis que Benalla, dans une scène, on le verrait dans les douches de la salle de sport de l'Assemblée. Quand il branche son rasoir, il actionne une trappe pour accéder à une pièce remplie d'armes, de faux papiers et de petites cuillères en argent du service de l'Élysée. Il y aurait même la Coupe du Monde de foot et les tableaux de Claude Guéant. L'idée, c'est de partir de l'adolescence de Benalla, où on apprendra qu'il n'était jamais invité aux soirées, sauf pour rester à la porte faire le vigile. On démarre donc avec le lycéen jusqu'au moment où il est nommé sénateur. Une fin peut-être un peu trop attendue, voilà. Bon, je vais avoir l'apparition du prochain canard enchaîné pour me décider. Là.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. L'affaire Benalla et ses rebondissements ont beaucoup inspiré les humoristes de France Inter. Pas vous, vous n'aviez pas trop envie d'en parler, Gilles, pourquoi?
Un peu moins. Je crois qu'il y a une telle accumulation de dysfonctionnements et de légèreté depuis des mois que ça finit par laisser sans voix.
Voilà. C'est faute de pouvoir en dire quoi que ce soit, Natacha.
Je pense que les humoristes sont meilleurs que nous pour commenter cette affaire-là. C'est, hélas, ça relève de cela. Ensuite, bon, on pourrait y aller. Mais je pense qu'il faut d'abord attendre de savoir exactement si ce sont réellement des dysfonctionnements, des maladresses, des erreurs humaines, ou s'il y a plus.
On va donc changer de sujet et faire un détour par le Royaume-Uni face au Brexit. Cette semaine, les députés britanniques ont rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. Écoutez Theresa May, c'était mardi dernier.
Comme si on disait aux gens qui nous ont élus qu'on ne veut pas faire ce qu'ils nous ont demandé. Alors je dis aux élus de tous les partis, quelle que soit la décision que vous avez prise, penchez-vous une deuxième fois sur cet accord. Non, il n'est pas parfait, et oui, c'est un compromis. Et ce que je dis, moi, c'est qu'on doit tenir les promesses faites aux Britanniques et continuer à construire un meilleur futur pour notre pays en soutenant cet accord. Voilà ce que je demande au Parlement.
Alors, les Français peuvent se consoler en regardant la situation politique en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce sont des enjeux absolument cruciaux. Et un pays tout entier qui est devant le vide et ne sait pas exactement comment va se terminer cette histoire. Gilles?
Oui, on a le sentiment qu'il y a à la fois énormément d'agitation. Il y a eu ce débat, cet incroyable débat parlementaire cette semaine, puis la motion de défiance le jour d'après. Et en même temps qu'il y a peu d'action, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. C'est une formidable leçon de choses. Ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Depuis 15 ans, 20 ans, l'Europe sert systématiquement de bouc émissaire pour tous les responsables politiques britanniques. Le référendum a été utilisé par David Cameron à des fins purement internes pour essayer de trancher les difficultés du Parti conservateur. La campagne menée par Nigel Farage et Boris Johnson a été une accumulation de mensonges et de manipulations. Les Britanniques ont été dans une impréparation absolument stupéfiante de ce qui allait allait se passer le jour d'après, ce qui fait qu'on a mis des mois et des mois avant de commencer à négocier. Ils ont, je crois, surestimé leur capacité à diviser l'Union européenne, fort de la puissance de et l'habileté de la diplomatie britannique.
Pourquoi surestimer ?
Parce que les Européens ont été incroyablement unis. Et donc, on se retrouve maintenant à quelques jours de la date du Brexit. Et on ne sait toujours pas où on va. On a, je termine par là, un Premier ministre qui est totalement démonétisé, mais qui n'est pas déboulonné. Et donc, on ne sait toujours pas où on va.
Natacha ?
Je pense d'autant plus qu'il y a dans ce vote de cette semaine une conjonction, une alliance objective entre les partisans du no deal qui rêvent en fait d'un Brexit dur. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui sont partisans d'un Royaume-Uni fonctionnant seul comme une sorte de plateforme offshore avec paradis fiscal, etc. Et qui donc ont la perspective de faire réussir économiquement le pays de cette façon-là, au détriment d'ailleurs de l'Union européenne. Et donc alliance avec ceux qui s'imaginent qu'en faisant échouer l'accord de Theresa May, ils obtiendront eh bien, tout simplement un deuxième vote sur le Brexit, pour revenir sur ce Brexit. Et donc on a cette situation absolument ubuesque, parce que l'impréparation, les mensonges dans cette affaire-là viennent de tous les côtés. C'est-à-dire que dans la campagne du référendum, oui, Nigel Farrell, Boris Johnson ont joué la politique du pire, ils ont été totalement irresponsables, ils n'avaient aucune notion de ce qu'ils voulaient derrière. Mais en face, ça n'était pas tellement mieux. C'est-à-dire que les partisans du Remain ont cru qu'il suffisait de prédire les plus de sauterelles pour convaincre les Britanniques de rester. Or, le problème est beaucoup plus profond que cela. Il aurait fallu se poser la question de savoir à quoi sert l'Union européenne, ce qu'elle doit apporter aux différents peuples européens. Et c'est en prenant le problème par ce bout qu'on aurait peut-être pu trouver une solution.
Est-ce qu'un peuple peut regretter son choix, d'un mot, Gilles?
Alors, oui, un peu, évidemment.
Si on regarde les sondages d'opinion, c'est vrai que c'est assez intéressant en Grande-Bretagne.
Mais je pense pas que, pour le coup, moi, qui suis pro-européen, partisan du Royaume-Uni dans l'Union européenne, je ne suis pas partisan de les faire revoter à l'identique. Mais le problème du référendum était que c'était une espèce de saut dans l'inconnu. C'est comme si on vous disait, votre appartement, il est pas terrible. La peinture s'écaille, les voisins sont pas très sympas et votre quartier, il est pourri, vous devriez l'abandonner. Les Britanniques ont dit OK. Sauf que on leur a pas dit où ils allaient habiter. On leur a dit, vous allez habiter, ça va être magnifique, vous allez avoir une grande maison dans le centre de Londres, refaite à neuf. Et puis maintenant, peu à peu, ils voient ce que va être la nouvelle, ou ce que peut être la nouvelle maison. Et si deuxième vote il doit y avoir, ce n'est pas le même que le premier, c'est entre trois choix réels. Rester, le no deal.
Divorce sans accord.
Le divorce sans accord et le deal. Là, c'est un vrai choix et ce vote-là aurait du sens.
Natacha.
Cela dit, d'abord, le no deal est au moins aussi dangereux pour les Européens que pour les Britanniques, et parmi les Européens pour les Français, parce que cela va poser des problèmes techniques et des problèmes économiques majeurs, et que finalement, la croissance britannique est meilleure que la nôtre. Donc si on perd des points de croissance, nous risquons d'en souffrir. Donc nous n'avons pas intérêt à ce no deal. Mais surtout, la question à se poser maintenant, elle est assez intéressante parce qu'elle est vertigineuse. Est-ce qu'on peut encore sortir de l'Union européenne ? Pour ma part, je pense que l'entrée des Britanniques dans l'Union européenne a été catastrophique. Ça a contribué, c'est le premier pas vers la destruction, l'abandon de tout espoir d'une Union européenne qui soit autre chose qu'une espèce de mini-mondialisation totalement atlantiste en plus, sans aucune réflexion sur l'indépendance des Européens. Et donc, il aurait fallu se saisir de ce départ pour repenser ce que doit être l'Union européenne, à quoi elle doit nous servir à nous, citoyens. Or, cela n'est absolument pas fait, et c'est ce que je regrette le plus.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
On va revenir en France avec cette crise sociale qui perdure et avec un vrai débat, une vraie polémique autour des usages disproportionnés par les forces de l'ordre de certaines armes comme les flashballs, on ne dit plus flashball mais LBD-40 pour désigner ces lanceurs de balles de défense. Il y a déjà eu aujourd'hui une centaine de blessés. L'exécutif dit régulièrement circuler, il n'y a rien à voir, mais est-ce que c'est une question technique de maintien de l'ordre, Natacha ? Faut-il interdire les flashballs, les grenades GLI F4, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ?
Il me semble que dans une démocratie fonctionnant correctement, on ne met pas d'armes dangereuses dans les mains de gens qui ne sont pas formés. On ne peut pas en vouloir aux policiers qui ont subi véritablement des moments de tension terribles, qui eux-mêmes ont eu de nombreux blessés. Il faut comprendre le surmenage qui en résulte. Mais malgré tout, le temps de formation sur ces LBD 40, qui sont les successeurs des flashballs, est absolument ridicule. C'est-à-dire qu'ils les ont en main pendant quelques heures où on leur apprend à tirer sur des cibles fixes. Ça n'a rien à voir avec le fait de se retrouver dans une manifestation dans un moment de tension. Et d'ailleurs, les règles d'engagement qui sont censées être celles des LBD 40 ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'ils tirent dans la tête à moins de 5-6 mètres, alors que normalement c'est au minimum 10 mètres d'écart et jamais dans la tête ni dans les parties génitales. Tout cela, évidemment, dans la panique, n'est absolument pas respecté parce qu'il y a un manque de formation. Donc, ces armes sont dangereuses.
Gilles, depuis des semaines, ici, on met en garde contre les risques que la violence en général, la violence des Gilets jaunes en particulier, fait peser sur la démocratie. C'est vrai, je l'avais dit même la semaine dernière, de toutes les violences, y compris des violences policières. On les met pas sur le même plan, mais de l'usage disproportionné de la violence, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on peut évidemment comprendre les difficultés devant lesquelles se trouvent les CRS, les forces de l'ordre, depuis des semaines, compte tenu de ce qu'ils ont subi. Mais cette question-là se pose. La question est de savoir si c'est l'existence même de ces armes, est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est l'usage. Pour le coup, je trouve que l'Assemblée nationale devrait se saisir de cette question-là, qu'il faut pas la mettre de côté, et qu'une mission d'information, une commission d'enquête se justifie pour éclairer le débat public, les questions techniques.
Le défenseur des droits a fait ce travail-là et il a fortement déconseillé l'usage de ces armes-là et notamment des LBD. Il y a des journalistes qui ont fait un grand travail pour recenser les différents types de violences commises contre des manifestants. Ce boulot-là, il existe.
Oui, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut y compris entendre ce que disent les forces de l'ordre, celles qui sont en charge de l'ordre public, qu'il faut entendre l'ensemble des parties prenantes, regarder le cas échéant comment le maintien de l'ordre est assuré dans d'autres pays. On peut malgré tout quand même reconnaître que dans beaucoup de pays, la violence des manifestations depuis des semaines et des semaines aurait donné lieu à de nombreux morts, que ça n'a pas été le cas. Mais ces violences-là ne sont pas acceptables. Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail collectif, un travail public, et que l'Assemblée nationale, et c'est une des fonction que peut remplir utilement un parlement dans un pays.
Natacha ?
Oui, je souscris totalement à cela. C'est-à-dire que ça relève du choix des représentants des citoyens. Et nous sommes dans une réflexion sur le rôle des représentants. Et ben allons-y.
Allons-y.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Avant d'accueillir notre invité Christophe Prochasson, une contribution au débat public. Que finance 1000 euros de dépenses publiques? Le gouvernement a répondu cette semaine avec un graphique très pédagogique qui a été préparé spécialement pour le grand débat national et où l'on découvre que sur 1000 euros de dépenses publiques, 575 vont à la protection sociale, retraite, assurance maladie, assurance chômage, 96 vont à l'éducation. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce graphique où l'on découvre que les élus parlementaires et autres ne coûtent qu'un euro sur les 1000 euros de dépenses publiques? Il oriente le débat, Natacha.
Je vais vous dire, je suis un petit peu triste parce que nous étions en train de travailler avec les journalistes économiques de Marianne depuis déjà deux, trois semaines sur un sujet: où va l'argent? Et l'idée était de faire exactement ce qu'a fait le gouvernement, qui nous a donc coupé l'herbe sous le pied. Ils ont été plus rapides, ou plutôt ils y étaient peut-être depuis plus longtemps que nous, parce que je pense que c'est un travail important, puisque ça fait partie des questions que se sont posées les citoyens. Alors, dans le travail qui est fait, la conséquence, c'est qu'il faut que nous soyons capables de voir quelles sont les prises de position démagogiques, et il y en a, sur les dépenses publiques. En effet, je veux dire, les symboles sont importants, donc quand des hauts fonctionnaires sont trop payés, c'est important. Mais c'est infime. Les élus, le coût des élus. Je pense que expliquer qu'il va falloir payer moins les élus, qu'il va falloir qu'il y en ait moins, etc., ça ne résoudra pas les problèmes puisque nous voyons que c'est infime. En revanche, ça permet de regarder, par exemple, le rôle de la protection sociale, et donc il va falloir réfléchir aux fraudes à la carte vitale qui sont nombreuses, ou à ce genre de choses qui font partie des points
et retraite,
où il y a moyen.
Le poste consacré aux retraites est considérable.
Oui, mais alors là, justement, là, il y a une analyse idéologique. Oui. C'est-à-dire que on va nous expliquer que ce qui coûte cher, ce sont les retraites par répartition, mais c'est un choix politique. Nous avons fait le choix des retraites par répartition.
Oui, c'est bien. Pour une fois, on va peut-être jouer un rôle inversé avec Natacha. J'ai été moins enthousiaste que vous. Je trouve que ce document a une immense vertu. Le tableau a une immense vertu. D'abord, c'est rare que l'administration réussisse à produire un document qui a une telle viralité. Donc, très bien, qui continue. Il a une vertu, c'est qu'il éclaire un point. Ce mot de dépense publique est impropre.
Pourquoi ?
Lorsque vous dites que la moitié, ce sont des transferts sociaux. Ce ne sont pas des dépenses publiques, ce sont
retraite,
des biens,
assurance maladie, assurance chômage.
C'est les actifs qui financent les retraités, voilà. Ce sont les biens portants qui financent les malades, ce sont les salariés qui financent les chômeurs, c'est des transferts sociaux, ce n'est pas de la dépense publique. Donc déjà, il faut clarifier ce premier point.
Mais par le biais de cotisation. Bon.
Par le biais de cotisations, mais c'est pas de la dépense publique.
Non, c'est un choix politique.
Ce sont des transferts
sociaux. Social.
Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Deuxième élément intéressant, on voit que la dette, et pourtant là aussi, je dis, il faut faire attention. La dette, c'est 3,7% de l'ensemble de ces dépenses publiques, et même avec l'inflation, c'est sans doute moins. Mais pourquoi je suis moins enthousiaste? C'est moins les chiffres que le texte qui l'accompagne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Il est très intéressant, mais il est bourré de présupposés.
Bien sûr.
Parfois même d'erreurs. Je vous donne juste un exemple. Lorsque l'on dit que le seul moyen de réduire le déficit, c'est d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses, vous avez un troisième facteur qui s'appelle la croissance. Et donc, on voit les comparaisons en fonction de ce qui arrange les auteurs du texte. Ce ne sont jamais les mêmes comparaisons. Donc, c'est à la fois ce que Bercy, que je connais bien pour y avoir travaillé quelques années il y a fort longtemps, peut produire de meilleurs et de pire.
Mais c'est une contribution au débat public avec une alternative très simple, plus de services publics ou moins d'impôts. Bon, bah, il faut choisir.
Non, justement. Et, voilà, et Gilles a raison de vous dire que ce présupposé.
Parce qu'on ne voit pas
ce
où tailler sans remettre en cause le modèle social français quand on regarde le graphique et la répartition des postes de dépenses.
Non. C'est justement non. Et encore une fois, il s'agit d'expliquer aux Français que ça fait partie du modèle social et que ce sont des choses qu'ils vont économiser par ailleurs dans leur vie. Déjà, premier point. Et que donc, il n'y a pas à penser cela comme une seule bonne gouvernance qui existe et qui nécessite de faire des arbitrages qui ressembleraient à ceux des autres pays. Nous avons des choix politiques. Donc ensuite,
des choix politiques à faire.
On peut en effet aller regarder plus finement, et je pense que Gilles a raison sur ce point-là, la façon dont c'est présenté est essentielle, et il va falloir faire le travail de fond qui va permettre d'aller regarder exactement comment se répartit tout cela, surtout comment sont mis en effet sur le même plan certains chiffres qui ne relèvent pas exactement des mêmes choses, mais par exemple sur les questions des collectivités territoriales, sur la façon dont tout cela se distribue, c'est un travail de longue haleine qui est très intéressant, mais qui doit se faire en rappelant que non, le présupposé baisse d'un impôt égale baisse d'une dépense n'est pas aussi simple que ça.
Donc c'est pas neutre, Gilles.
Évidemment que ce n'est pas neutre. Moi, je pense que poser la question en généralité sur le niveau de dépenses publiques n'a strictement aucun intérêt. Et que donc, soit on le fait de manière précise en rentrant sujet par sujet, soit il ne faut pas le faire.
Par exemple, quand on regarde, et qu'on n'y connaît pas grand-chose, mais quand on regarde le graphique, on voit par exemple que les retraites, je reprends l'exemple, sont la première masse de dépenses du pays, trois fois supérieure aux dépenses pour l'éducation.
Il faut
arrêter de payer les retraités.
Met les citoyens face à un vrai problème.
Mais voyez, vous dites, encore une fois, vous faites le même graphique aux États-Unis. La conclusion, c'est beaucoup moins de dépenses publiques. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins de transferts sociaux. C'est-à-dire que les retraites, l'assurance maladie, l'éducation ne sont pas socialisés ou ne sont pas payés par les pouvoirs publics, mais sont payés par les citoyens eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des postes et voir où on peut améliorer, et il y a des améliorations possibles sur l'efficacité de la dépense publique. Un dernier point, parce que dans ce document, il se termine par, pour être un peu taquin, par les objectifs du gouvernement. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils rappellent et ce qu'ils omettent. Ils omettent les objectifs de déficit, au moment où on est au-delà des 3%. Ils ne disent plus quels sont les objectifs qui étaient poursuivis. Ils omettent l'objectif de réduction du chômage que Emmanuel Macron avait fixé pendant la campagne. Ça aussi, ça a disparu. Et en revanche, il y a quelque chose qui est dans le document et qui est une révélation. Ils disent l'objectif, c'est une suppression de 80% de la taxe d'habitation pour les 80% les plus riches. alors que il y a peu avait été alors qu'a été voté il y a peu la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Donc ce serait des points qu'il serait intéressant d'éclaircir.
Qui n'était pas clair d'après les dernières déclarations du gouvernement. On a bien vu qu'il y avait un sujet là-dessus. Mais en effet, la réduction du chômage, par exemple, c'est un sujet. C'est un sujet dont on pourrait parler. Mais curieusement, ces politiques-là, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler à propos du grand débat, ça n'est jamais émis. On continue à faire à taux constant en essayant de dire bah, il va falloir baisser telle ou telle dépense.
Merci pour la transition, Natacha. Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
La période que nous sommes en train de vivre, évidemment, elle pose beaucoup de défis à notre pays. Mais plus profondément, je pense que nous pouvons faire du moment que traverse la France une chance. Ce qui est en train de remonter aujourd'hui, et qui vient de très loin, c'est une fracture sociale, on en parle depuis 25 ans. Une fracture territoriale qui n'a cessé de croître, une fracture économique qui a frappé les classes moyennes, et une fracture démocratique. Et donc toutes ces fractures, on les a devant nous, et d'un seul coup, les choses s'effritent.
Qu'attendre du grand débat national ? La réconciliation du peuple avec les élites, la réconciliation des Français avec eux-mêmes peut-elle passer par là ? On ouvre le débat avec notre invité, il est historien spécialiste de l'histoire du socialisme, de la tradition ouvrière et de la France contemporaine, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Christophe Prochasson.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Il y a quelques jours, chez nos amis de France Culture, vous formuliez une hypothèse passionnante. Le mouvement des Gilets jaunes serait le premier mouvement social présentiste, c'est-à-dire un mouvement qui ne propose pas de lendemain qui chante, mais où on pense d'abord à l'immédiat, au maintenant. On va en parler, on va en débattre, mais je voulais d'abord vous entendre sur le grand débat national, sur la volonté de pouvoir sortir d'une crise politique et sociale majeure par le débat. Ça semble profondément nouveau. Est-ce que c'est conforme, selon vous, à l'esprit de la République ?
Écoutez, on pourrait dire que oui, puisque la République, en quelque sorte, s'est mariée avec la raison, la discussion argumentée, l'école, l'information, la formation. Donc tout cela est bien dans le sillage d'un héritage républicain, en tout cas tel que nous en faisons l'idée, nous, en France, parce qu'il y a d'autres modèles républicains. Alors après, évidemment, on peut s'interroger sur les conditions, et d'ailleurs certains le font, de l'exercice de ce débat. Un débat républicain, si j'ose dire, c'est un débat informé qui s'appuie sur une longue préparation et qui ne s'improvise pas. Et là, il y a peut-être une dimension un peu instrumentale du débat sur laquelle on peut évidemment s'interroger.
On va en parler, je vais donner la parole tout de suite à Natacha et Gilles, mais comment est-ce que la réconciliation d'un pays avec lui-même peut-elle naître de la controverse, voire de la polémique ?
Bien, parce que d'abord, elle dissipe peut-être un certain nombre de malentendus, elle précise les positions des uns et des autres, et elle lève un certain nombre d'incertitudes, de confusions, qui fait que l'on prête, par exemple, des idées aux uns et aux autres qui ne sont pas les idées des uns et des autres. Donc, tout ce qui va vers la clarification, la transparence, c'est un mot qu'on aime bien aujourd'hui, dont on abuse d'ailleurs peut-être un peu, eh bien, tout cela me semble effectivement être une solution tout à fait raisonnable.
Natacha Polony.
En effet, de ce point de vue-là, oui, mais il est tout de même assez frappant de constater que ce grand dialogue national a commencé par un immense monologue, celui du président de la République. Alors, applaudi, ovationné.
Vous parlez du président en bras de chemise, en 6h30, micro à la main, voilà, devant 600 maires.
Devant des maires, c'est-à-dire pas devant des citoyens, devant des maires. C'est-à-dire déjà devant
des
ils sont avant tout des représentants des citoyens, ils sont des élus. Et ça, c'est le premier point. Donc, c'est une forme particulière du débat qui ne reflète sans doute pas ce que devrait être un débat de réconciliation nationale. Deuxième point, je suis assez frappée. Vous dites qu'il faut, en effet, un débat préparé, un débat pensé. Il me semble que le rôle des corps intermédiaires et des institutions, c'est-à-dire non seulement des élus mais aussi des médias, et de faire en sorte d'apporter dans ce débat des points qui vont permettre aux citoyens d'être plus éclairés. Or là, nous avons eu des maires qui ont posé des questions sans doute passionnantes sur telle allocation dans telle ville, sur la réfection du toit de l'église, etc. Et nous étions en Normandie. En Normandie, des industries qui ont fermé, il y en a eu pléthore. Moulinex, Amcor, on peut tous les citer. Voilà. Et pas un mot. C'est-à-dire que le cœur du problème, la désindustrialisation de la France, qui petit à petit fait perdre des emplois industriels, qui sont ceux qui ont le plus de valeur ajoutée, parce qu'un emploi industriel apporte 3 emplois de service, enfin toute cette mécanique qu'on voit depuis 20 ans et qui détruit le pays, pas un mot. Alors je me demande à quoi va servir ce dialogue, ce débat, si personne n'apporte ces éléments-là pour interroger le président de la République là-dessus.
Christophe Rochasson.
Écoutez, moi je n'ai pas de commentaire à faire d'ordre politique comme vous le faites, Natacha Polony, mais dans ce que vous dites, il y a en effet un volet qui me paraît très important, qui est le rôle des corps intermédiaires, qui sont évidemment là des agents du débat en quelque sorte. Et l'on ne peut que déplorer le déclin d'ailleurs qui est assez ancien de ces corps intermédiaires, mais il y a...
Déclin, même effondrement des structures politiques traditionnelles.
Bon, il faut rappeler tout de même que la France n'est pas un pays de grande terre syndicale, que le syndicalisme en France a toujours été un syndicalisme de minorité, à part quelques moments particuliers où on a vu en effet des troupes syndicales se renforcer. Mais là, on voit évidemment toute la limite, en quelque sorte, de cette structure nationale qui est que on a du mal à avoir une parole organisée portée par des institutions. Mais il y a aussi des institutions non syndicales qui contribuent au débat. Je pense au Conseil économique, social et environnemental qui est un espace de débat extrêmement intéressant qui mériterait peut-être d'être renforcé, d'avoir une dimension plus éclairante dans le débat.
On parle plutôt de sa suppression et de son inutilité par les temps qui courent.
Oui, bien sûr, mais je pense qu'on a tort parce que ce que vous signaliez, Natacha Polony, c'est-à-dire ce face-à-face, en fait, cette personnalisation du débat est en effet un peu préoccupante et du coup trahit ce que vous disiez à Ali Badou tout à l'heure, c'est-à-dire que, en effet, oui, le débat est républicain, mais à condition que ce ne soit pas simplement un débat d'école, un maître devant des élèves.
Je reprends le point de départ de votre question. Est-ce que la controverse peut réconcilier, qui est une vraie question et quelque chose qui peut sembler contradictoire. Je crois que ce qui différencie fondamentalement un régime démocratique d'un régime totalitaire, c'est que dans un régime démocratique, on reconnaît la divergence, des divergences d'intérêts, des divergences de positions et qu'on organise le débat, le vote pour trancher, pour réguler ces divergences. C'est vrai que là, c'est inédit parce que généralement, une sortie de crise se fait soit par un vote, soit dans un conflit social traditionnel. Il y a la mobilisation et après, il y a une phase de négociation.
Et là, on ne sait pas s'il y aura une élection ou un vote.
Là, d'une certaine manière... Le grand débat est le substitut à la négociation d'un conflit traditionnel. La question, c'est sur quoi, évidemment, va-t-il déboucher, puisqu'une négociation, elle doit déboucher sur quelque chose. Alors, à l'évidence, je crois que Christophe Rochasson a raison, les conditions d'organisation de ce débat ne sont pas idéales. Le temps est beaucoup trop contraint. On peut débattre des questions qui ont été posées, mais il a le mérite d'être là et... Une des vertus des 6 heures de discussion du président de la République est de montrer l'importance que les pouvoirs publics y attachent. Donc maintenant, je pense qu'il faut que tous les citoyens s'en saisissent.
Christophe Rochasson.
Oui, je crois que Gilles Vignetchard a raison. Le débat doit déboucher sur ce qui est en démocratie le ressort principal de la délibération, c'est-à-dire l'élection. C'est-à-dire que on débat on vote. Donc la réponse, elle est là. Le problème, c'est qu'on a un peu perdu cette habitude en France, c'est-à-dire qu'on vote et qu'on arrête en quelque sorte le débat, alors que le débat devrait être
continu.
C'est
la campagne présidentielle par exemple.
Voilà, on débat un peu, plus ou moins, pendant les campagnes présidentielles, mais là on prend conscience que tout d'un coup il devrait y avoir en quelque sorte un continuum du débat, c'est-à-dire que notre société qui a perdu peut-être l'habitude de ce débat, des sociabilités politiques qui autrefois en quelque sorte construisaient un débat permanent.
On n'arrête pas de débattre sur les réseaux sociaux par exemple.
Alors vous avez raison. Vous avez raison, c'est là-dessus qu'on pourrait s'interroger, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des formes des débats, mais qui sont peut-être déconnectées et inadaptées aux questions que nous nous posons. Et il n'est pas certain que le débat tel qu'il existe sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information continue soit du niveau ou de la qualité qu'exigerait une vie politique telle que nous l'envisageons et telle que la République pourrait l'attendre.
Il me semble que pour qu'il y ait débat utile, il faut que le débat soit argumenté. Il y a donc des instances dont le rôle doit être d'apporter différents arguments au débat. Je pense que ça fait partie du rôle des médias que d'apporter aux citoyens les différentes armes intellectuelles pour que ce débat ne soit pas simplement ce qu'il est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des échanges d'opinions non fondées.
Voire des insultes.
Voire des insultes, parce qu'en général, quand les opinions sont non fondées, la raison n'a plus cours, on ne peut pas se rendre aux arguments de celui qui est en face, et donc il n'y a aucune chance qu'on puisse sortir par le haut de ce débat.
Mais qu'on comprenne bien, vous pensez qu'il n'y a pas eu de débat pendant la campagne présidentielle, par exemple ?
Je pense que la question que nous devons nous poser, entre autres, est celle de la façon dont les arguments sont apportés jusqu'aux citoyens, c'est-à-dire est-ce que les médias, entre autres, jouent leur rôle de médiation et donc d'apport des différents arguments sur tous les sujets essentiels et de remise en perspective. C'est une des dimensions du problème. Il y a aussi ensuite la question de la place de la raison dans une société comme la nôtre. Est-ce que nous sommes encore dans une société qui met en avant la foi en la raison et en l'idée que sur certains sujets...
Vous taquinez, on entend la nostalgie de la Troisième République.
Non, pas la nostalgie de la Troisième République. Si je peux avoir une nostalgie, c'est celle de l'idéal de l'humanisme et des Lumières. C'est pas une question. La Troisième République n'a pas réalisé cet idéal.
Non, là, excusez-moi, votre taquinerie n'a pas cours. Je pense que la démocratie repose sur la raison. C'est pas simplement avoir la nostalgie de la République que de dire que nous ne pouvons faire vivre la démocratie que sur la base d'échanges argumentés et donc que la raison doit avoir sa place. Essentiel. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut défendre la raison. Et je le dis un peu dans les termes lorsque Bourdieu parlait de « il faut défendre la société ». Je pense qu'aujourd'hui, il faut défendre la raison pour défendre la société démocratique.
Défendre la raison, on va vous répondre par exemple, et on parlait de ce graphique fourni par le ministère de l'économie et des finances, ce graphique sur les dépenses publiques. On vous présente les choses de telle manière que c'est très simple. On vous dit voilà, il y a trop de dépenses publiques consacrées aux retraites par exemple, il faudrait diminuer ça. C'est une manière d'installer dans les esprits, sous les apparences de la scientificité, une idée qui est portée par un projet politique.
Excusez-moi, je voudrais juste répondre là-dessus. C'est la raison pour laquelle il y a l'école des hautes études en sciences sociales et les sciences sociales, excusez-moi, qui permet de mettre en place des dispositifs critiques qui permettent d'interroger ce type de formation, de construction de données et de les interroger dans des termes un peu différents.
Gilles.
Oui, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je prenais une distance par rapport à ce document. Évidemment que on est tous pour qu'il y ait un débat argumenté et qu'il se fasse sous l'égide de la raison plutôt que des passions et a fortiori des invectives et des insultes. Le rôle des pouvoirs publics est aussi d'éclairer le débat et c'est ce en quoi je trouvais que le document de Bercy était à la limite. De la même manière, dans les propos du président de la République, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à la performance, dans les propos du président de la République, il y a des arguments qui peuvent être discutés. Je n'en donne qu'un seul exemple parce que c'est, je trouve, une bonne illustration du sophisme qui peut exister. Lorsque le président de la République dit, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'il avait amélioré la situation des gilets jaunes, ça serait, et donc on a eu raison de le supprimer. Eh ben, si l'impôt progressif sur le revenu avait amélioré la situation des gilets jaunes, eh ben, ça serait, on n'a qu'à supprimer l'impôt sur le revenu et on peut supprimer tous les impôts avec cet argument. Donc, plaçons ça sous argument, contre-argument.
C'est un beau programme politique.
Quant au débouché, le vote, comme le disait Christophe Prochasson, peut être un des débouchés, a fortiori s'agissant de la partie démocratique institutionnelle d'un référendum et peut-être même d'un référendum à choix multiples. Ce n'est pas nécessairement le seul débouché. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez remettre autour de la table les partenaires sociaux qui ont été trop écartés depuis le début de ce quinquennat, notamment sur tout ce qui concerne le pacte social, les élus devant lesquels il s'est exprimé. Et puis, il y a beaucoup de sujets sur lesquels de ce débat peut déboucher directement des décisions. Il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne dont on l'a vu dans le débat avec les maires qui tiennent au style de vie des Français. Quand le président de la République, les 80 km/h,
ouais, j'allais y venir.
Qui est le point de départ, un des points de départ très importants de la colère. Bon, on a senti que manifestement, la discussion était ouverte. Ben, il est possible que, pour reprendre le titre de l'essai de Malin Ridal, les Français ne veulent pas être heureux comme des Danois.
C'est-à-dire que le modèle scandinave, dans lequel il y a des normes de comportement qui sont très fortes, n'est pas tout à fait, sur ce point-là, le modèle français. Et donc, les décisions, elles peuvent être prises directement sur beaucoup de sujets, des négociations sur d'autres, un vote sur le troisième, il n'y a pas une seule voie possible de déboucher pour ce débat.
Bien sûr qu'il n'y a pas une seule voie possible. Et surtout, vous avez tout à fait raison sur cette question de, des modes de vie, de la culture et de la façon dont on organise une société. C'est-à-dire que...
Mais les 80 km/h, c'est pas de la culture ou du mode de vie, si?
Ça, mais ça relève de la culture au sens large, c'est-à-dire plutôt du mode de vie, des mœurs.
Ça fait sourire Christophe Rochasson qui est spécialiste de l'histoire culturelle.
Voilà, mais ça relève des mœurs. Et dans la façon de voir le monde, nous avons un problème qui est actuellement le fait que les politiques ont tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'organiser la société, sous l'égide de l'économie, et avec une façon de bien gouverner, parce que cela relève de la rationalité économique. Or, il y a des choix qui relèvent de l'histoire.
Les 80
km/h, ce
sont aussi des choix très simples de sécurité routière. Les gens roulent le moins vite, il y a moins de morts sur les routes.
Ce sont des arbitrages entre le risque que vous prenez, la façon dont vous le faites, c'est-à-dire où est-ce que vous habitez exactement, et le rôle des individus par rapport à l'État. Ce sont des arbitrages qui ne vont pas se régler de la même manière suivant toutes les sociétés. Regardez, la sécurité routière allemande ne fonctionne pas du tout de la même manière que la sécurité routière française, tout simplement parce que les types comportementaux ne sont pas les mêmes. On ne fait pas de la politique sans penser à cela.
Christophe Rochasson.
Non, moi, j'ai aucun titre à intervenir sur les 80 km/h sur lesquels je n'ai aucune idée personnelle. Je ne sais pas. Mais en revanche...
Non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, oui. Il y a tellement de questions posées, des questions qui touchent au cœur même du modèle social français, au fonctionnement des institutions de notre République. Et finalement, c'est vrai que l'un des sujets majeurs, on l'avait oublié, et qui était au point de départ de la contestation, c'est les 80 km/h.
Je pense qu'il y a d'autres choses.
Mais bon,
il y a d'autres ressorts à ce qui s'est passé que cette mesure. Simplement, je ne sais pas si la France est liée, mariée aux 80 km/h contre la Scandinavie, etc. je ne sais pas. En revanche, la question qui est posée, me semble-t-il, et j'en reviens à votre question initiale sur la République, c'est de savoir comment on gouverne et comment on propose au peuple. Et la question qui est posée, c'est jusqu'où peut-on aller en matière de démocratie participative? Est-ce qu'on est attaché à notre modèle de démocratie représentative qui fait qu'on ne descend pas à chaque fois au niveau du peuple pour l'interroger sur telle ou telle mesure, mais qu'on fait confiance à une catégorie de personnes qu'on appelle les élus pour régler tel ou tel problème au cours d'un mandat? C'est là la question politique qui est posée, me semble-t-il.
Cette question, nous en avons déjà parlé dans cette émission. Cette question est liée à celle de savoir qui a l'espoir de devenir un jour représentant, c'est-à-dire dans un système où l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social, ce sont toujours les mêmes qui sont les représentants, ça se confond avec une classe sociale.
Ça a toujours été un peu le cas, Natacha Polonier.
Ça a toujours été un peu le cas, mais la promesse républicaine est celle d'un renouvellement d'une petite part des élites à chaque génération. Deuxième chose, quand il y a un vote, la minorité accepte le vote de la majorité à une condition, c'est que cela se fasse sur chaque sujet, selon des arbitrages qui font que sur chaque sujet, la majorité ne sera jamais exactement la même. Et que tout citoyen a l'espoir d'être un jour du côté de ceux qui ont emporté la majorité et dont les choix vont être appliqués. Sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, si vous avez une seule classe sociale qui, à un moment donné, a tendance à défendre ses intérêts de classe à travers les votes, ça ne marche plus.
J'entends bien. Non, mais certainement, vous avez raison de soulever ce problème de la représentativité d'une catégorie sociale mise au service de l'État. Mais j'en reviens aux 80 km/h. Il me semble que est-ce que ce serait bien raisonnable, c'est une question que je pose, de consulter le peuple pour chaque mesure de ce type-là
D'autant que c'est une décision qui a été prise par décret du Premier ministre et qu'elle n'a pas été soumise au vote ni des députés.
Voilà. C'est une décision, me semble-t-il, alors qui indigne beaucoup un certain nombre de nos concitoyens, c'est un fait, mais qui relève presque de la technique. Et il y en a beaucoup comme cela qui pourraient faire surgir des indignations quotidiennes.
Autre sujet sur lequel j'avais envie de vous entendre débattre tous les trois. Vous disiez, Christophe Prochasson, on ne sait plus ce que pensent les uns et les autres dans notre pays. Et ce débat pourrait permettre justement d'y voir plus clair. Qu'est-ce que vous entendez par là? On ne sait plus ce que les Français pensent les uns des autres?
Bien, je pense
les uns et les autres.
On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure à juste titre. Il me semble que les réseaux sociaux donnent simplement l'apparence d'un débat et caricaturent en quelque sorte les positions des uns et des autres en entretenant un entre-soi. C'est que les réseaux sociaux constituent des communautés d'opinion qui construisent des fantasmes en quelque sorte de l'opinion des uns et des autres en forçant le trait.
Et je crois que ça c'est très dommageable. À ce sujet. Mais est-ce que ça veut dire, très simplement pour que nos auditeurs comprennent, ça veut dire que les Français ne se connaissent plus eux-mêmes ?
Ben, je crois que les Français fonctionnent un peu en silo, pour employer une expression assez courante, hein, qu'il y a une
silo,
opacité.
Comme un silo à grains.
Voilà, que chacun est en quelque sorte dans son coin et a du mal, en effet, d'accepter l'affrontement, la confrontation, le désaccord. Il y a quelque chose d'insupportable, en quelque sorte, dans le désaccord et qui rend le débat très difficile.
Natacha, ouais, Gilles,
je crois que Christophe Pourchasson soulève une des grandes difficultés de la situation actuelle, c'est qu'on a de plus en plus deux mondes qui sont des mondes parallèles dans lesquels il n'y a plus d'espace commun. Et la note que vous avez évoquée de Roman Bornstein que la Fondation Jean Jaurès a publiée cette semaine, qui est une immersion numérique avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire d'un journaliste qui s'est inscrit sur les trois principaux groupes Facebook et qui a suivi l'ensemble des débats et des Facebook Live, montre une chose notamment qui est très intéressante, c'est que et c'est intéressant pour les Gilets jaunes et c'est intéressant au-delà sur le fonctionnement de la démocratie. C'est que cet entre-soi, cet effet de bulle est de plus en plus fort. Il est plus fort qu'auparavant, il est plus fort même qu'il y a quelques mois, lié à la fois à un élément qui est spécifique à la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire une défiance tellement forte envers les médias traditionnels que jamais un de leurs articles n'est relayé sur les groupes Facebook, à l'exception de Brut et de Russia Today, et surtout le changement d'algorithme de Facebook qui fait en réaction à ce qui s'est passé à l'élection présidentielle américaine, Facebook a privilégié les groupes, c'est-à-dire l'idée d'avoir des réseaux locaux de solidarité, mais l'effet, la conséquence, c'est que les Gilets jaunes ne voient plus dans leur représentation du monde que les Gilets jaunes.
C'est vrai, Gilles, mais on a tendance là à ne considérer que les supposés Gilets jaunes comme étant victimes de l'algorithme de Facebook. Or, je crois qu'on aurait tort de s'imaginer qu'il n'y a que les algorithmes qui favorisent l'entre-soi. Un exemple, aujourd'hui, l'endogamie sociale recule dans toutes les couches sociales en France, sauf les couches sociales très élevées et les plus diplômées. En fait, il y a une disparité et des populations qui ne se rencontrent plus d'un point de vue géographique, d'un point de vue social. C'est-à-dire que la carte des inégalités sociales tend à devenir géographique et non plus seulement sociale. On n'habite plus au même endroit, on ne fréquente plus les mêmes lieux, on ne fréquente plus les mêmes gens. Et je pense que ça a des conséquences au moins aussi importantes que la question des algorithmes, parce que ça veut dire qu'il y a une part des élites qui sans doute, eh bien, ont fait sécession, pour reprendre l'expression de Christopher Lasch.
Voilà, on avait publié, la Fondation a publié une autre note il y a quelques mois qui s'appelait la sécession des riches, et y compris ça se voyait sur par exemple les colonies de vacances. On voyait que quand on analyse ce que sont l'évolution des colonies de vacances, que cette sécession, cette parité est de plus en plus forte. Juste encore un chiffre.
Un mot.
La moitié des Français les plus pauvres ne rencontrent jamais dans leur voisinage un Français qui gagne plus de 3500 euros par mois, c'est-à-dire les 10% les plus riches.
Christophe Rochasson.
Oui, j'ajoute aussi que la lisibilité du monde politique est devenue extrêmement difficile avec l'effondrement de ce qu'on appelle les grands récits, les grandes identités politiques, et qui ajoute de la confusion. Je crois que c'est une des difficultés qu'on a d'interpréter, par exemple, le sens politique du mouvement des Gilets jaunes. Hein, certains y voyant un néo-fascisme, les autres un retour d'une vieille culture politique révolutionnaire, que ce brouillage, en quelque sorte, rend aussi les choses extrêmement difficiles en termes de débat.
Et justement, pour terminer cette émission, je voulais qu'on débatte et qu'on discute de cette hypothèse donc que vous aviez émise, à savoir que le mouvement des Gilets jaunes serait donc un mouvement social présentiste. C'est, pour reprendre l'expression d'un historien, Philippe Hartog, l'idée que ce mouvement ne propose pas justement la révolution, ne propose pas de lendemain qui chante, mais qu'on pense d'abord à l'immédiat, au maintenant. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est
Natacha et Gilles.
Rapidement, c'est un mot évidemment un peu pompeux que présentiste, qui signifie que aujourd'hui on est en quelque sorte écrasé par le présent et que la projection vers le futur, parce qu'on a perdu son passé d'une certaine façon aussi, devient extrêmement difficile. Certains observateurs, tout cela est évidemment en cours et relève de l'hypothèse, oui, ont remarqué à quel point, en quelque sorte, le mouvement tenait parce que il donnait du sens aux vies, aux existences immédiates. Le fait d'être ensemble sur un rond-point, partager une vie, brisait aussi, d'une certaine façon, la solitude qu'un certain nombre de personnes ressentaient dans leur vie. Vous savez, on pourrait renvoyer à la fameuse formule de Vianson-Ponté dans les années 60 ou de Lamartine au 19e siècle, la France s'ennuie. Il y a quelque chose comme une réponse à un ennui social, me semble-t-il, dans ce mouvement. Il y a d'autres explications, mais qui est très fort au fond des gens qui sont les familles monoparentales, des personnes âgées ou isolées, qui sont depuis des années face à leur écran, tout d'un coup retrouvent le plaisir d'être ensemble.
Et il ne faut pas négliger le quotidien. Plus que la révolution.
Ça veut dire le quotidien plus que la révolution. C'est-à-dire que changer ma vie tout de suite et maintenant et pas dans l'attente, au fond, d'une nouvelle société qui viendra un jour, mais on ne sait quand.
Natacha.
Mais peut-être est-ce la conséquence aussi de...
Vous partagez l'hypothèse ?
Je partage relativement l'hypothèse, oui, dans le sens où il me semble que cette question de retrouver du lien est au cœur de cette problématique. Sauf que après, il s'agit de savoir comment ce lien s'est détruit. Pourquoi il y a aujourd'hui une carence de sens aux existences, de capacité à rencontrer l'autre. Or, ce sont aussi les mécaniques du capitalisme qui, petit à petit, ont détruit tous les lieux de sociabilité, tous les liens. C'est aussi ça. Donc, il y a une logique économique derrière.
Alors, Gilles, moi, je partage pas relativement l'hypothèse, je la partage totalement. Je pense que dans les différentes mutations extrêmement brutales, extrêmement rapides que connaissent nos sociétés, la mutation de notre rapport au temps est une des mutations les plus centrales. J'avais appelé ça la dictature de l'urgence il y a presque 10 ans.
Dans un livre.
Déjà, c'est à la fois le culte de la vitesse, tout le plus vite possible, un temps qui est accéléré, c'est le culte de l'action, un temps qui est de plus en plus saturé, où il est pour chacun normal de faire de multiples activités simultanément, et c'est un temps qui est de plus en plus un temps compacté, c'est le culte de l'instant, le culte du présent, avec un temps qui n'a plus de profondeur, qui n'a ni de passé ni de futur. Et je crois qu'un des défis collectifs qui nous est posé au travers de ce débat et bien au-delà, c'est d'essayer de retrouver des perspectives.
Mais sur le mouvement des Gilets jaunes, quand Natacha vous dites qu'il met en cause un certain type de structure économique, une certaine forme de libéralisme, néolibéralisme, ça voudrait dire que ce mouvement des Gilets jaunes appelle à une transformation radicale.
Au fond, oui, et c'est pour ça que je disais que j'étais relativement d'accord.
Ouais,
c'est-à-dire
c'est
que même si ça n'est pas exprimé, et en effet, ça n'est pas, il n'y a pas de lendemain qui chante, mais il y a par là un cri de colère et de détresse face à ces mécanismes. Pardon, mais un simple exemple, la mécanique qui consiste à supprimer absolument partout des êtres humains dans les actions, que ce soit dans les guichets de gare, que ce soit dans les supermarchés, partout, ça crée de la détresse.
Christophe Prochasson.
Oui, vous avez sans doute, c'est-à-dire qu'il manque en quelque sorte à ce mouvement social-là, en dépit de sa diversité, les effets locaux, etc., un langage politique que vous lui donnez, vous, sur lequel on pourrait discuter.
Oui, on peut débattre de ça.
Mais ce langage politique fait défaut, me semble-t-il, aux acteurs sociaux qui éprouvent quelque chose, ce que nous sommes en train de décrire, mais qui n'arrivent pas à trouver le langage qui va avec et qui, du coup,
Qu'est-ce que c'est le langage politique?
Le langage politique est, par exemple, celui de Natacha Polony, qu'on n'est pas obligé de partager. Ce n'est
bien
pas
sûr
mon rôle de le contredire ou pas, mais de dire, par exemple, en effet, c'est le capitalisme, c'est un dispositif économique et social qui produit cette solitude, cette désespérance, ce manque de reconnaissance aussi, qui est aussi quelque chose de très fort et qui est connecté avec cette souffrance sociale-là. Et donc, si c'est le dispositif qui produit cela, évidemment, il faut en changer. Mais c'est une très longue histoire. Mais
il nous reste très peu de temps, Gilles.
C'est d'ailleurs une des différences entre le mouvement de mai 68, auquel on l'a parfois comparé, et les Gilets jaunes. C'est qu'on peut dire qu'il y a une même insatisfaction, une même colère face au modèle existant. Mai 68 projetait un autre modèle, et là, pour l'instant, ce mouvement ne projette rien.
C'est une différence évidemment essentielle que celle-là.
Mais 68 partait d'étudiants.
Avait un langage politique, avait des références, avait des auteurs, avait des acteurs, avait des modèles. Et on ne peut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas, à part les interprétations sur interprétations que mes collègues et moi-même donnons parfois, n'a pas ce modèle-là.
Tout le monde interprète et surinterprète le mouvement.
Ce n'est pas indigne d'essayer d'interpréter. Encore faut-il débattre ensemble des différentes interprétations et savoir si les citoyens vont avoir l'impression qu'à un moment, une de ces interprétations va traduire ce qu'ils ressentent.
Bah merci de l'avoir fait. Et merci Christophe Prochasson d'avoir été notre invité. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation cette semaine, Claire Destacan à la technique et Guillaume Roux. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.